maintenant, en direct du Salon du Jeu de Société de Paris, notre envoyé spécial vous ramène un bon podcast.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Gilles Garnier, qui est le boss de la société d'édition Edge. Bonjour Gilles.
Bonjour.
On sent dans Edge qu'il y a vraiment une peut-être pas une ligne éditoriale, mais il y a une volonté de présentation qu'on retrouve dans chacun des jeux.
Alors, disons que la ligne éditoriale que l'on a, nous, elle est un peu unique sur le marché européen. C'est-à-dire que nous sommes spécialisés sur le jeu américain, l'Améritrash. Donc, on est l'éditeur de jeux de Fantasy Flight Games, de Steve Jackson, de beaucoup d'éditeurs américains, parce qu'on est des fans de jeux américains à la base, hein, tous chez Edge. On a débuté par le jeu américain Avalon Hill dans les années 80. On vient de là. On ne vient pas du tout du jeu allemand qui est arrivé en Europe, chez nous, du moins en France, plus tard, dans les années 90. Nous, on a été élevés au jeu américain. Donc, moi, je suis un fan de jeu américain. Je préfère un jeu qui va m'apporter plus d'imaginaire, plus d'implication émotionnelle qu'un jeu allemand ou un jeu plus européen qui est beaucoup plus cérébral, qui sont des très très bons jeux avec des mécanismes très très bien huilés, mais qui sont voilà, plus cérébraux. Plus, si je veux un jeu cérébral, je joue aux échecs. Voilà. Mais si je veux m'impliquer dans un jeu, si je veux m'amuser, surtout que ce sont des jeux relativement longs en général, je veux une décharge émotionnelle, je vais jouer à un jeu américain.
Donc soyons encyclopédiques, donc effectivement le jeu américain par rapport au jeu allemand, il y a une grosse différence. On dit souvent quand on est sur un jeu allemand, c'est d'abord la mécanique et puis le thème.
Exactement.
Tandis que le jeu américain, c'est l'inverse à ce moment-là.
Exactement. Les Allemands plaquent un thème sur une superbe mécanique, hein, alors que les Américains, eux, ils ont un thème, ils veulent faire un jeu autour de, que ce soit Conan par exemple, c'est l'actualité, mais ça peut être un Battlestar Galactica, ça peut être peu importe, et ils vont inventer une mécanique qui va coller au thème. Et donc l'implication, l'imaginaire dans ces jeux-là est beaucoup plus fort que sur un jeu allemand qui va être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus mécanique et cérébral.
Oui. Mais vous le disiez, c'est une mécanique plus huilée dans le jeu allemand. Ça veut dire quoi si elle n'est pas bien huilée dans un jeu américain ?
Non, c'est que dans un jeu américain, elle va être moins, entre guillemets, fluide. Comment dire ? Un jeu de Knizia, c'est d'une simplicité bluffante. Les grands jeux de Knizia de l'époque, hein, parce que Knizia aujourd'hui, ils recyclent. Mais les grands Knizia, ça va être c'est des mécanismes d'une simplicité et d'une élégance que les Américains n'ont pas. Les Américains, c'est beaucoup plus, ça va être il va y avoir beaucoup plus de petits points de détails, de petits points qui vont amener de la saveur au jeu, mais c'est beaucoup moins pointu, beaucoup moins élégant, entre guillemets. Voilà, il y a une élégance du jeu allemand, c'est vrai qu'il...
On va dire que la courbe d'apprentissage est plus importante sur un jeu américain.
Voilà, tout à fait. La courbe d'apprentissage est plus importante, le temps de jeu est aussi plus important. On joue pas un jeu américain en 10 minutes, soyons clairs, ou un quart d'heure, ça n'existe pas. Un jeu américain, on s'implique dans le jeu.
Bien, ça c'est le décor.
Voilà.
Donc Edge a changé de nom il y a peu de temps. Donc on parle d'Ubik. Avant ça s'appelait Ubik. On peut repasser à travers cet historique. Donc d'où vient, quelle est la genèse de Ubik pour arriver à Edge?
Disons que Ubik a été créé justement parce que... dans l'historique, je suis aussi le patron de Millennium. Donc qui est le distributeur, qui est un distributeur en France de pas mal d'éditeurs, que ce soit Istari, Edge, Matago, etc. Il est arrivé un moment où je ne voyais pas arriver sur le marché français d'éditeurs avec des jeux américains, justement. Les jeux que j'aime personnellement et que nous, on aime chez Millennium et chez Edge. Donc, il y avait un manque sur ce marché, je trouve, de jeux, justement. Tout le monde parlait des jeux allemands, tout le monde jouait aux jeux allemands, c'était Carcassonne, c'était les Colons de Catan, on voyait que ça, on entendait que ça, et moi ça m'énervait, quoi, parce que les gens, on ne faisait pas découvrir au public francophone ce qu'est pour moi l'essence du jeu personnellement, hein, qui est le jeu américain, qui est voilà, le gros jeu dont on vient de parler. Donc Ubik a été créé pour répondre à ça. Je voulais éditer du jeu américain, je voulais faire découvrir aux joueurs francophones le jeu américain, ce qu'était le jeu américain.
Ça date de quelle année ?
Et ça date du début des années 2000.
Ouais.
Voilà. Donc Ubik a été créé pour ça. Ensuite, donc, bah, ça, voilà, on a amené Munchkin, on a débuté avec ça, avec Munchkin, avec les jeux Fantasy Flight. Et petit à petit, on s'est rapproché d'un éditeur espagnol qui s'appelle Edge, qui est aussi Millennium en Espagne, qui a une société qui est Millennium en Espagne, et qui édite des jeux que l'on fait nous aussi, des jeux américains, une société qui s'appelle Edge, une société espagnole. On a mis en commun nos ressources de plus en plus. Et au bout d'un moment, on a trouvé la situation un peu ridicule d'avoir deux sociétés sœurs qui faisaient les mêmes choses, les mêmes jeux, qui avaient le même site internet, parce que le site internet est le même en Espagne qu'en France, et de ne pas avoir le même nom. Donc on a décidé d'abandonner le nom Ubik, de regrouper nos ressources, de fusionner. Et voilà comment Edge est né de la fusion de Edge Espagne et de Ubik en France.
Quelle est la valeur ajoutée directe que ça a offert? C'est-à-dire, bon, c'est un regroupement de sociétés, d'accord, mais est-ce que ça a provoqué une économie d'échelle dans le sens où...
Bien entendu, on a les mêmes logos. Donc par exemple, quand on fait une campagne marketing, quand on fait des objets promotionnels, par exemple, on fait... Dans les gens qui commandent chez nous, par exemple, ils ont chaque fois dans leur colis, ils ont des sucettes, ils ont des petits trucs comme ça, des trucs sympas, eh ben, c'est les mêmes. Je veux dire, c'est Edge. Donc, il n'y a pas besoin de faire du Ubik, de faire du Edge. Le site internet, c'est le même. Le logo est le même. Et ensuite, quand on va à l'étranger, quand on est aux États-Unis, quand on va discuter avec des éditeurs ou des... les gens de suite... Edge, ils connaissent Ubik en France, Edge en Espagne, c'était pas pareil.
Quel est l'accueil allemand des jeux Edge? Puisque là, on n'est pas du tout, dans l'école allemande. Ce sont quand même des jeux qui fonctionnent en Allemagne.
Oui, ce sont des jeux qui fonctionnent en Allemagne parce qu'il y a un public. Déjà, nos jeux s'adressent beaucoup plus à des gens qui ont une tendance de rôliste, par exemple. Le rôliste qui veut se mettre au jeu de plateau. Si on le met sur un Carcassonne, oui, il va trouver ça sympa, mais il ne va pas retrouver l'imaginaire qu'il a dans son jeu de rôle. Avec un jeu Edge, il va se mettre à Horror Arkham ou à Battlestar Galactica ou à des jeux comme ça, et il va instantanément retrouver et projeter son univers et son imaginaire sur le jeu de plateau. C'est fait pour les jeux Fantasy Flight, et ces jeux-là sont faits pour pas pour les rôlistes, mais disons que le rôliste va se retrouver dans ces jeux-là. Il ne va pas se retrouver dans un jeu allemand, ça c'est clair. Donc notre public est ce public-là.
On est sur une sortie ici qui est Age of Conan. On peut peut-être en parler. Quelle est l'approche qui a été faite? Pourquoi est-ce que Edge l'a sorti en fait?
Parce que c'est un jeu. Alors c'est un jeu italien, hein, c'est Nexus qui l'a fait, mais c'est un pur jeu à l'américaine. Hein, Conan, on est fan. Voilà. C'est un héros, c'est le héros américain par excellence, c'est le barbare, c'est l'homme libre, c'est on a sorti le jeu de rôle Conan, c'est un héros qu'on adore, et le jeu est vraiment très immersif. On se retrouve vraiment dans l'univers de Conan, donc oui, on adore, quoi. On adore.
Vous, en tant qu'éditeur, dans ces cas-là, vous le reprenez de Nexus et vous le traduisez, en fait.
Tout à fait. On le traduit, on l'adapte par rapport aux traductions qui ont été faites de Conan en France. Mais tout à fait. Là c'est un jeu qu'on ne fait qu'adapter, tout à fait.
Dans les prochaines sorties de Edge, on peut avoir une idée?
Prochaine sortie de Edge, il va y avoir des jeux basés... Je ne peux pas encore en parler, mais il va y avoir pas mal de jeux basés sur les licences Games Workshop. Puisque notre partenaire Fantasy Flight a récupéré les licences de jeux de plateau Games Workshop, donc il va y avoir des sorties.
Un exemple, c'est Talisman.
Tout à fait, c'est le premier qu'on ait fait, c'est Talisman, tout à fait. Mais il va y en avoir pas mal, et il va y avoir aussi pas mal de jeux originaux, basés sur les univers Warhammer et Warhammer 40 000. Voilà. Donc ça, c'est du côté Fantasy Flight. Ensuite, on va avoir une gamme de jeux originaux Edge, que l'on va sortir petit à petit. C'est pareil, on ne peut pas encore trop en parler, puisqu'on n'a pas encore lancé de campagne dessus. On va sortir Steam, donc la vraie suite de Age of Steam par Martin Wallace. Donc lui arrivera d'ici environ un mois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du jeu de rôle, mais ça c'est moins... Voilà, on va sortir le Trône de Fer en jeu de rôle.
Voilà. Qui était un jeu de plateau au départ.
Tout à fait. Il va y avoir le jeu de rôle Le Trône de Fer.
Ça, c'est vous qui le développez ou bien
non.
C'est...
Non, ça, c'est, on est en partenariat avec Green Ronin aux États-Unis, qui est un éditeur américain. On va faire un jeu de cartes autour de Conan, ça que nous développons. On va dans la licence Conan pour les jeux de cartes. Donc on va faire un petit jeu de cartes Conan, assez rigolo.
Conan est rigolo ?
Ah oui. Ah, Conan, c'est drôle quand même.
Oui.
Quand même. Il y a quand même un côté second degré dans Conan.
Tout à fait. Ok.
Et on en a parlé, donc il y a une gamme jeux longs, immersifs à l'américaine. De l'autre côté, on a Munchkin, enfin des petits jeux de cartes, on va dire, mais c'est pas des petits jeux de cartes parce qu'ils ont une certaine longueur. Et puis on a vu apparaître dernièrement un jeu comme Moto Grand Prix, qui est finalement un jeu de parcours. Pourquoi avoir sorti un Moto Grand Prix qui finalement ne colle pas à l'image, mais c'est pas grave, hein, mais pourquoi ?
Parce que je suis motard, je suis fou de moto. Voilà.
Et voilà. Et parce que le mécanisme était intéressant.
Le mécanisme est très sympa, c'est le système de flip dice qui est vraiment très, très élégant. Et puis voilà, je suis un fou de moto, donc et de moto Grand Prix. Je ne loupe jamais un Grand Prix moto. Je ne conduis pas de voiture, je ne conduis que des motos. Donc voilà.
C'est difficile pour transporter des jeux, ça.
Eh ben ouais, mais bon, malheureusement, j'ai fait un choix.
Battlestar Galactica, c'est un jeu qui est collaboratif. C'est le premier collaboratif de Edge.
Non, on avait fait Horror Arkham avant. Voilà. Et on avait fait aussi Novembre Rouge avec Bruno Feduti. Et même mieux, on avait fait, même bien avant ça, on avait fait Descent, qui est un jeu semi-coopératif, qui a 4 joueurs et un maître de jeu. Donc les 4 joueurs jouent contre le maître de jeu, mais c'est du semi-coopératif.
Et justement, le Galactica, là, c'est quand même. Est-ce que c'est un jeu de licence, en fait ?
Oui.
Il est fortement lié à la série. En
fait. Ah, bah absolument. Je crois que c'est le jeu, pour moi, qui est le plus lié à sa licence. C'est-à-dire que. On retrouve, quand on joue si on aime la Battlestar Galactica, la série, on va retrouver instantanément dans le jeu tous les personnages et vraiment la saveur de la série. Quoi. Moi, je suis fan de la série et c'est vraiment, au-delà du fait que ce soit vraiment un très bon jeu, Corey Knidia, pour moi aujourd'hui, donc le designer de Battlestar Galactica, pour moi aujourd'hui est certainement peut-être l'un des 3 meilleurs designers de jeux du monde. Mais réellement, quoi, c'est un gars, il fait des choses extraordinaires. Il a participé à Horror Arkham, il est sur Battlestar Galactica, il fait les jeux qui va sortir ensuite, vous allez voir, c'est un gars, il est extraordinaire. Pour moi, c'est la future grande star des designers de jeux, bon évidemment école américaine, hein, mais réellement quoi, c'est le futur Knizia entre guillemets.
Et le nom de cet auteur-là, c'est ?
Il s'appelle Corey Knizia. Et vous croyez-moi, Corey Knizia, hein, pas Knizia. Oui, hein. Corey Knizia. Et croyez-moi, vous allez entendre parler dans le futur, c'est un gars fabuleux.
Et si on n'aime pas Battlestar Galactica, le jeu, il vaut la peine ?
Ouais. Le jeu en lui-même a des mécanismes fabuleux. Ouais. Après, le seul truc de Battlestar, c'est qu'on ne connaît pas la série, c'est qu'on va pas trop, on va pas trop comprendre pourquoi les joueurs qui sont à côté de nous sont autant fous. Parce que c'est ça, ils délirent complètement dessus. Mais le jeu en lui-même, les mécanismes sont vraiment excellents. C'est vraiment très très bon. 2008 a été très pour nous très très chargé et 2009 va l'être encore plus. Il va y avoir aussi dans l'actualité Munchkin, on va sortir Munchkin Quest, le jeu de plateau basé sur Munchkin, qui est vraiment très fun. J'avais un petit peu peur qu'ils nous fassent un jeu. Bon, Munchkin c'est rigolo, mais c'est un petit peu limité en termes de gameplay, on va dire. Mais c'est vraiment fun, on joue à ça pour délirer. Et Munchkin Quest, vraiment ils ont sorti vraiment un bon jeu qui reste dans l'esprit délirant de Munchkin. Mais le jeu en lui-même est vraiment un très bon jeu.
Est-ce que Edge vient en tant qu'éditeur source, c'est-à-dire des auteurs viennent voir Edge et Edge sort le jeu qui finalement part dans l'autre sens au niveau international ?
Oui. On avait sorti Guerre Froide par exemple, qui était CIA versus KGB, qui était sorti aux États-Unis par Fantasy Flight, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et là, on a en projet pas mal de jeux qui vont. Qui vont sortir un peu partout en Europe et aux États-Unis.
Ouais. Ça veut dire que vous êtes ouvert à des propositions d'auteurs.
Absolument. On a pas mal d'auteurs qui viennent nous voir et il y a pas mal de jeux d'auteurs qui vont sortir. Commencer en 2009, on va vraiment développer cette gamme.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
À bientôt.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.